Merci d'écouter Euradio pour cette nouvelle interview depuis nos studios de Strasbourg portant sur le sujet de l'éco-conception des produits. Le 25 avril prochain, le Parlement européen se prononcera lors d'un vote sur une proposition de règlement européen justement pour fixer des exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits durables. Pour en parler, nous recevons Clémence Leplat, doctorante en droit à l'Université de Lille. Vous travaillez sur la gestion des invendus par les entreprises. Bonjour Clémence.
Bonjour Romain.
Alors, déjà petit point définition, qu'est-ce qu'on entend par éco-conception des produits ?
Alors, l'éco-conception, c'est un terme qui est assez large, mais il faut se dire que c'est comme une démarche. C'est en tant que professionnel, on va avoir une démarche qui consiste à réduire tous les impacts de la production, de la distribution, de l'utilisation et de la fin de vie des objets que l'on met sur le marché. Alors si je vous donne un exemple, si on prend le cas du jean, pour fabriquer votre jean, vous allez par exemple utiliser un coton qui va être peut-être moins polluant et qui va nécessiter moins d'eau pour être produit. Vous allez enlever certaines substances chimiques pour minimiser l'impact de ce jean dès sa fabrication. Et ensuite, par exemple, vous allez faire une toile qui va être plus résistante, qui va résister à plus de lavage, qui ne va pas rétrécir trop vite pour que vous puissiez porter votre jean, vous en tant que consommateur, le plus longtemps possible. Et vous allez aussi, par exemple, réfléchir à des idées pour minimiser les impacts de la fin de vie de ce jean, une fois que vous allez réutiliser la toile, éventuellement le recycler, le réparer, etc., etc. Donc c'est une démarche qui se concentre sur ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Toutes les phases de vie que va traverser le produit, de sa naissance jusqu'à sa mort en quelque sorte, le but c'est de minimiser les impacts environnementaux du produit à chaque étape de sa vie.
Quand vous dites démarche, donc on ne parle pas d'un label ou d'un cahier des charges déjà fixé, prédéfini, c'est plutôt c'est dans le comportement même des entreprises finalement, c'est un peu comme la RSE finalement.
Alors là en fait il faut se dire que au niveau des États, d'abord chaque État a éventuellement établi des règles nationales, des exigences d'éco-conception. Ensuite, vous avez certaines entreprises qui ont elles-mêmes fait la démarche, par exemple, de réduire leur utilisation en eau ou d'avoir recours à des modes de transport qui sont peut-être moins polluants. Ici, l'idée de la Commission européenne avec ce texte, c'est finalement d'établir des exigences en matière d'éco-conception qui soient harmonisées à l'échelle des États membres.
Alors donc ce texte de la Commission européenne dont on parle a été proposé en 2022. Il y a eu un accord en trilogue en décembre 2023 sur ce texte et donc à la fin de ce mois d'avril 2024, un vote au Parlement européen. Dans la version actuelle donc de ce texte, il est indiqué que, je cite, « la priorité devra être accordée aux exigences de durabilité pour l'acier, les textiles, les meubles, les pneus, les produits chimiques ». Donc si je comprends bien, c'est... On raisonne catégorie par catégorie de produits. Toutes les catégories de produits ne seront pas concernées en même temps par ces exigences d'éco-conception.
Disons que vous avez des catégories de produits qui sont tellement différentes. Si vous prenez le cas d'un pneu et le cas d'un textile, les exigences au niveau de l'éco-conception vont différer. Là, l'idée, c'est que par exemple, un pneu, vous êtes quand même limité par le type de matériau que vous allez utiliser. Vous avez peut-être moins de marge de manœuvre que pour la fabrication d'un vêtement textile. Un vêtement textile sera peut-être une démarche d'éco-conception, ce sera d'éviter peut-être de mélanger des fibres de coton, des fibres de polyester qui seront très dures une fois que le produit sera usé, à séparer, éventuellement à recycler ou à réutiliser. Bon, pour le pneu, vous êtes quand même un petit peu plus réduit au niveau de votre action. L'idée, en fait, c'est par la suite de faire des catégories de produits, parce que vous avez d'abord ce premier texte-là qui sera discuté prochainement, mais ensuite, lorsqu'il sera adopté, vous aurez des actes complémentaires qui vont arriver, ce qu'on appelle des actes délégués, où là, vous allez avoir une réglementation beaucoup plus technique qui va fixer des seuils ou des critères spécifiques à chaque catégorie. Parce que vous pouvez pas avoir un même impact lorsque vous fabriquez un jean et lorsque vous fabriquez un appareil électronique. On n'est pas sur les mêmes enjeux. Donc l'idée, c'est pour que cette réglementation ait un impact, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre chaque catégorie de produits, chaque famille, et sur chaque famille, essayer de décomposer toutes les phases de ces produits pour essayer de voir un petit peu là où on peut fixer tel ou tel seuil à respecter, fixer telle exigence. Donc, c'est pas forcément ciblé sur un produit particulier. Je pense que la proposition se veut assez globale, assez générale. C'est sur les produits, ce qu'on appelle les produits durables. Donc, tout ce que vous trouvez sur le marché, vous, en tant que consommateur. Après, il y aura peut-être d'autres exigences spécifiques, parce que vous avez cité les pneus. Les pneus, vous avez déjà une réglementation européenne qui est établie. Vous pouvez pas avoir. Vous avez déjà des règles qui sont plus strictes, parce que c'est aussi des matériaux qui sont assez polluants. Ça peut être la même chose, par exemple, pour les piles ou pour d'autres. Vous avez déjà des familles de produits où il y a une réglementation qui est plus spécifique. Parce que c'est pas être des choses qui sont plus polluantes ou la fin de vie est un petit peu plus compliquée, comme les pneus par exemple.
Vous nous avez évoqué des actes délégués. On a aussi parlé de ce projet de texte qui sera voté au Parlement européen. Là, il s'agit donc d'un futur règlement européen. Comment s'articulent un petit peu tous ces différents outils législatifs ? C'est quoi la différence entre une législation européenne et un acte délégué ?
Alors là, il faut se dire que déjà, c'est une proposition de règlement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera votée, elle entrera directement dans notre droit, nous, français. Après, vous avez des mesures assez générales.
Vous voulez dire que le texte européen sera finalement copié-collé, transposé sans modification dans les juridictions nationales.
Exactement. Par exemple, dans ce texte, vous avez une interdiction. Vous avez une interdiction de détruire vos invendus. Donc, quand on regarde un petit peu la formulation de ce texte, qui n'est pas la formulation définitive, hein, parce qu'il n'y a pas encore eu de vote final, mais c'est assez flou. On vous dit que certaines entreprises n'auront désormais plus le droit de détruire leurs invendus. Ensuite, pour que cette interdiction puisse être respectée, l'idée, c'est qu'on va adopter des actes délégués, donc des textes complémentaires beaucoup plus précis et qui vont un petit peu donner la marche à suivre. Donc, par exemple, vous allez avoir un texte qui va vous dire telle entreprise est concernée par cette interdiction, telle entreprise va pouvoir continuer à détruire ses produits. Certains types de produits devront nécessairement être réutilisés, réemployés, recyclés, ou d'autres non. Pourquoi ? Parce qu'on va estimer que, par exemple, telle solution de réutilisation ou de recyclage va être plus coûteuse ou va être plus polluante que le fait d'incinérer certains produits. Bah, ça va être des réglementations plus techniques qui vont fixer un peu les limites de certaines obligations, de certaines interdictions. On va aller un petit peu plus dans le détail.
Sur la base d'une législation adoptée au niveau européen puis transposée au niveau national. Ensuite, dans ce cadre législatif-là, on adopte des actes délégués qui viennent préciser, qui viennent mettre en application sur le terrain pour la bonne application de cette législation européenne, c'est ça ?
C'est ça, mais c'est des actes qui émanent quand même de l'Union européenne. Un petit peu comme en France, vous avez par exemple certaines lois qui peuvent sortir avec des dispositions qui sont assez générales, qui posent de nouvelles contraintes ou de nouvelles obligations, mais ensuite il faut attendre par exemple un décret d'application qui va venir préciser, par exemple, qui va venir expliquer à partir de quand telle obligation devra être respectée, quelles sont les personnes qui sont concernées. Voilà, des textes un peu plus spécifiques qui vont venir poser un petit peu plus de contexte et un petit peu plus d'éléments par rapport à ce texte-là qui est plutôt général pour l'instant.
Alors, vous avez commencé à le mentionner, Clémence Leplat, l'un des piliers de ce texte, ce sera de prévoir progressivement l'interdiction pour les entreprises en Europe de détruire les invendus. Alors, nouveau petit point définition, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'un invendu ?
Oui, alors tout d'abord, moi j'estime que c'est un point qui est important dans ce texte parce que c'est aussi mon champ d'étude. Hein. Je travaille quand même sur la gestion des invendus. Alors, un invendu, vous avez la Commission européenne justement qui, dans sa proposition, a donné une définition. C'est tous les produits de consommation, donc ce que vous trouvez régulièrement dans vos supermarchés, dans le commerce en ligne, c'est tout ce qui n'a pas été vendu ou qui a été retourné par un consommateur qui a fait usage de son droit de rétractation. C'est ce que vous retrouvez en général dans les reportages à la télévision ou à la radio quand vous voyez des montagnes de vêtements ou de produits électroniques dans des pays, des états tiers par exemple, qui sont pas complètement détruits, mais enfin qui sont devenus hors d'usage par exemple. Donc tout ce qui n'a pas été vendu ou retourné par un consommateur.
Quel est le problème aujourd'hui avec les invendus ? C'est qu'on ne peut pas les recommercialiser ?
Alors, on peut. Alors, c'est la difficulté dans tout ce qui est retour de produit. Vous savez, quand vous achetez un produit, vous faites usage de votre droit de rétractation parce que le produit ne vous convient pas. Là, il y a un petit peu un cas par cas qui se fait. Si vous achetez un produit électronique, vous vous rendez compte qu'il est défectueux et que vous le renvoyez, c'est difficile, c'est délicat pour l'entreprise de le remettre, par exemple, dans ses rayons alors que le produit aura déjà été utilisé. Les vêtements, ça se voit un petit peu moins. Il suffit juste d'un lavage, d'un réétiquetage, ça peut être revendu dans le commerce. C'est un petit peu quelque chose qui est fait au cas par cas par les entreprises en fonction du type de produit et du motif de retour.
Ça a tendance à s'accumuler pour atteindre les montagnes, par exemple, de vêtements que vous évoquiez plus tôt.
Oui, alors le cas du textile est assez emblématique parce que lorsque vous avez des invendus textiles, vous avez une partie qui est quand même déstockée, que vous allez retrouver sur des sites de revente en ligne, ou alors chez des déstockeurs, ou alors ça va être revendu dans des états tiers. Mais on a aujourd'hui un tel volume de production de vêtements qui fait que les collections s'enchaînent, les vêtements se démodent très très vite, et s'ils ne sont pas vendus, ils n'ont presque plus de valeur marchande en fait, parce que c'est des collections qui sont très très éphémères, des tendances aussi de mode très éphémères, et on en revient un petit peu sur l'éco-conception dont on discutait tout à l'heure. C'est des vêtements qui sont aussi fabriqués pour être vendus le plus rapidement possible, et il n'y a pas forcément d'idée de durabilité derrière. Vous avez par exemple des vêtements que vous pouvez trouver sur le commerce, vous les lavez une vingtaine de fois et ils sont tellement rétrécis qu'ils ne sont plus à votre taille, ou alors qu'ils vont rapidement se déformer, se décolorer, ou qu'ils ne seront pas robustes. À partir du moment où des vêtements qui ont finalement une durée de vie assez limitée ne se vendent pas, il y a finalement très peu d'options qui peuvent se présenter pour les professionnels, et certaines marques d'ailleurs ont été épinglées pour ça, certains ont recours à des méthodes de destruction, vont enfouir leurs vêtements textiles invendus sous terre, vont les incinérer.
Quand vous dites certains, c'est les entreprises?
Ah oui, c'est ceux qui sont en détention de ces invendus.
Alors justement, au vu de vos recherches, Clémence Leplat, est-ce que vous savez un peu plus précisément de quel volume on parle? Est-ce qu'on a des chiffres sur la quantité d'invendus en France, en Europe?
Alors c'est difficile à chiffrer. Difficile à chiffrer parce qu'on a finalement assez peu de rapports à ce sujet, et quand on en a un, il ne porte pas forcément sur le même échantillon que le rapport précédent. Donc c'est délicat, et alors en plus, j'ai envie de vous dire que le volume varie selon les secteurs. On parlait du textile, on a beaucoup d'invendus textiles. Pour d'autres catégories de produits, on essaye de limiter au maximum. On a quand même en France un rapport de l'ADEME qui est sorti, et l'ADEME c'est l'Agence de la Transition écologique, et qui elle estime que les invendus représentaient en 2019, tous secteurs confondus, environ 3% du chiffre d'affaires des entreprises, ce qui équivaut à peu près à 4 milliards d'euros de valeur marchande. C'est délicat dans le sens où, voilà, l'échantillon, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été interrogées, et c'est difficile d'avoir accès au nombre d'invendus générés chaque année par les entreprises, et c'est encore plus délicat de connaître la part qui est directement détruite par les entreprises. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans cette proposition de texte de l'Union européenne, justement, l'idée, c'est que la Commission établisse régulièrement des rapports, justement. Les entreprises vont devoir communiquer sur le volume d'invendus généré chaque année, et aussi sur, puisqu'ils sont dans l'interdiction de les détruire, sur la part des invendus qui seront donnés à des associations, qui seront revendus à des grossistes, par exemple, ou déstockés, qui seront recyclés, etc., etc.
Donc toutes ces actions des entreprises en Europe que vous décrivez, comme finalement le volume d'invendus, le volume de biens et de produits qui sont redonnés à des associations, tous ces exemples que vous avez cités, les entreprises seront obligées de déclarer donc toutes ces actions et tous ces invendus?
Oui, l'idée c'est que tous les opérateurs économiques qui vont mettre au rebut des produits invendus vont devoir justement rendre public sur un site internet le nombre d'invendus qui ont été mis au rebut par catégorie de produits, les raisons aussi de cette mise au rebut, et ensuite va devoir aussi rendre public les différentes opérations qui auront été mises en œuvre, par exemple pour réemployer, réutiliser, donner, recycler, valoriser les invendus. C'est ça qui est intéressant, parce que vous avez déjà en France une interdiction de destruction des invendus qui existe. C'est dans le droit français depuis 2016 pour tout ce qui est denrées alimentaires, et depuis 2020 pour tout ce qui est invendus non alimentaires. Mais au final, on ne sait pas. C'est difficile de...
Donc vous vous dites que finalement ce projet de texte européen existe déjà finalement au niveau national en France ?
Alors en France, oui. En France, on a déjà une interdiction de, on a déjà l'interdiction de détruire ces invendus et au contraire de leur trouver une nouvelle utilité en quelque sorte. On les réemploie, on les réutilise, on les répare, on les recycle, etc., etc.
Mais finalement, à vous entendre, ce flou autour du volume des invendus en Europe, il est aussi valable en France, malgré l'existence déjà de cette loi d'interdire de détruire les invendus.
Ce qui est délicat, c'est que ce qui va être un invendu pour vous ne le sera pas forcément pour une autre personne. Vous avez, imaginez, vous avez des, toujours les, sur le, pour le, l'exemple du textile, vous avez des vêtements qui n'ont pas été vendus à la fin de la collection. Pour certains, ça va être stocké dans des entrepôts et ça va être revendu plus tard, à un autre moment ou pendant les soldes. Donc, ça sera peut-être pas forcément considéré comme un invendu qui n'a plus aucune chance finalement d'être vendu ou utilisé par la suite. Donc c'est difficile de savoir avec précision ce que représente un invendu pour une entreprise, ce sera pas forcément la même chose pour une autre entreprise. Et en France, finalement, on a ce rapport de l'ADEME qui nous parle à peu près de 3% du chiffre d'affaires des entreprises, mais en fonction du secteur, c'est quand même très très différent. Et puis surtout, on a très peu de connaissances sur le volume généré chaque année. Donc on ne sait pas si, par exemple, depuis qu'on a cette interdiction de détruire les invendus en France, hein, depuis qu'elle est entrée en vigueur, on ne sait pas si on détruit moins d'invendus qu'avant. On ne sait pas si on en produit moins. On ne sait pas si on en donne plus.
Comment ça se fait, ça ? Pourquoi on ne le sait pas ?
Parce qu'on n'a pas on n'a pas d'obligation de rendre public notre gestion des invendus, ou en tout cas de communiquer sur le volume qu'on génère.
Donc finalement, cette idée de la Commission européenne et de ce futur règlement européen d'obliger les entreprises à déclarer tout ce qui concerne les invendus, c'est une solution efficace selon vous ?
Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir comparer. On va pouvoir avoir un rapport, alors régulièrement un rapport, pour voir un petit peu si on produit plus d'invendus qu'avant et si, sur ce qui est produit, on arrive plus facilement à leur trouver une nouvelle issue. On pourra savoir ensuite, avec plus de précision, si on a toujours autant recours à la destruction, si on a d'autres alternatives aussi qui sont possibles, qui sont mises en place. Le fait d'avoir des données chiffrées plus précises, c'est toujours plus intéressant pour après adapter nos outils.
Alors, si ce règlement européen est adopté et sera progressivement mis en œuvre dans les prochaines années, ce texte prévoit en premier lieu de s'appliquer au secteur des textiles, donc notamment aux invendus du secteur des textiles. Pourquoi ? Pourquoi ce secteur en priorité ?
Alors l'idée, c'est quand même que ça s'applique à tous les invendus non alimentaires. Hein. Mais le textile, c'est vrai qu'il faut savoir que la mode, c'est quand même une des industries les plus polluantes, qu'on trouve aussi peu d'issues à ces invendus parce qu'ils ne sont pas forcément éco-conçus ou alors ils sont difficilement réutilisables parce que la qualité est trop mauvaise ou alors ils sont difficilement recyclables parce que c'est un ensemble de fibres mélangées. C'est une industrie qui est très polluante. On a un gros volume d'invendus généré chaque année parce qu'on a de plus en plus de collections et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les décharges à l'étranger en fait.
Alors peut-être une dernière question un peu plus large. Moi j'ai retrouvé des propos tenus par la rapporteure pour le Parlement européen de ce texte qui sera voté à la fin du mois. C'est l'eurodéputée italienne Alessandra Moretti qui a déclaré « Il est temps de mettre fin au modèle extraire, fabriquer, jeter ». Donc ça c'est le discours politique. Moi je voulais savoir, vous en tant que chercheuse, en tant que doctorante, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel rôle peut jouer le droit dans ce changement de paradigme de nos économies, de nos manières de produire, de consommer ?
Le droit peut vraiment être un acteur important justement pour sortir de ce système, comme vous disiez, extraire, fabriquer, jeter, donc un modèle finalement linéaire, hein, le modèle dans lequel on est aujourd'hui. Le droit peut être un acteur du changement parce que il peut poser un cadre nouveau pour accélérer une transition vers ce qu'on appelle une économie circulaire, où là, les ressources qui sont produites, donc va d'abord essayer d'en produire moins, mais pour celles qu'on trouvera sur le marché, on va sans cesse lui trouver une nouvelle utilité, faire en sorte qu'un produit ait plusieurs vies. Donc ce texte est ambitieux. C'est vrai que son objectif, c'est qu'à terme, sur le marché européen, on ait uniquement des produits qu'on appellerait durables. Ambitieux, après, tout va dépendre de ce qu'on va prévoir dans ces fameux actes délégués. C'est-à-dire, est-ce que les sanctions vont être suffisamment dissuasives? Est-ce qu'on va prévoir beaucoup d'exceptions ou est-ce qu'un grand nombre d'acteurs seront concernés? Comment on va accompagner aussi les entreprises dans cette transition? Donc, c'est plein de facteurs. Il n'y a pas uniquement le droit qui peut nous faire changer de logique.
Un très grand merci, Clémence Leplat. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
Merci beaucoup.